Donc c'est normal qu'on défraye leur dépassement.
Voilà. Je vous remercie. Je passe la parole à Liliane et à Jean-Pierre, à moins que j'ai oublié quelque chose, que tu penses à autre chose.
Non, je pense
voilà.
Que c'est bon.
Bibliographie, allons-y.
Bibliographie. Donc, je voulais commencer cette bibliographie par un bouquin d'Éric Hazan. Ça s'appelle « Notes sur l'occupation ». Alors, Éric Hazan, c'est un écrivain juif. C'est intéressant de le noter dans ce contexte. Il est directeur des éditions La Fabrique. Donc, c'est à La Fabrique que ça a été édité. Ce bouquin, il l'a écrit suite à un séjour de 2 mois, en mai-juin 2006, en Cisjordanie, dans les villes de Naplouse, de Qalqilya et d'Hébron. Et oui, pendant ce séjour, il est allé à la rencontre des populations civiles. Il a rencontré aussi les élus, les militants associatifs. Et il est allé aussi dans les zones sensibles, près du mur, près des colonies. Et donc, à travers ces notes qu'il a prises, il nous livre non pas une image d'un conflit israélo-palestinien comme les médias occidentaux nous le décrivent, mais il nous livre plutôt le récit d'un peuple qui résiste comme il le peut face à une grosse machine militaire et administrative israélienne. Voilà. C'est un livre plein de témoignages. J'ai un petit trou là. Oui, qui nous fait partager le quotidien des Palestiniens. Et un quotidien qui est parfois difficile, un quotidien parfois douloureux aussi, mais jamais résigné. Voilà. Ça, c'était le premier livre, donc Éric Hazan. Je sais pas. Le second livre, c'est une BD. C'est Josako, ça s'appelle Gaza 1956. Alors, Josako, c'est un dessinateur américain qui a déjà commis plusieurs BD, notamment sur Sarajevo, sur la Bosnie. Il a fait un ouvrage aussi sur la Palestine dans les années 90. Et il a une spécialité au niveau de la BD, il fait une BD journalistique. Il est un des rares à faire ça dans le domaine de la BD. C'est-à-dire qu'il va sur le terrain et puis il dessine ce qu'il voit et il le retrace à travers une BD. Et là, donc, au cours d'un reportage à Gaza, il entend parler de 2 massacres qui ont eu lieu en 1956 et dont il n'y avait pratiquement pas de traces écrites, sinon dans un rapport de l'ONU. Quelques vagues traces qui faisaient état de 276 morts. Donc, il décide de revenir à Gaza pendant plusieurs mois, c'était en 2002. Et pendant son séjour, donc, il va à la rencontre, il essaye de trouver des témoins de ces massacres-là. Et ce qui est intéressant dans ce récit, c'est qu'il mêle à la fois le présent et le passé, c'est-à-dire il se met en scène en train d'enquêter, mais en même temps qu'il enquête, il y a les événements qui continuent. Il est à Gaza, donc, en 2002. Il y a des Palestiniens qui sont tués. Il y a des maisons qui sont détruites. Des gens qu'il connaît très bien. Il est hébergé chez les Gazaouis. Et il y a aussi, c'est l'époque où il y avait des attentats suicides en Israël. Donc, aussi, on voit les réactions des populations par rapport à tous ces problèmes-là, quoi. Le dessin au début paraît un peu, comment dire, terne, mais en fait il cultive beaucoup le détail et ça donne vraiment une dimension assez évocatrice au dessin. Pour terminer, moi je dirais que c'est un livre qui est sans concession, qui est sans manichéisme. Voilà. Et le dernier livre que j'avais envie de dire quelques mots avant de donner la parole à Liliane, ça s'appelle « Palestine et Palestiniens ». Alors ça, c'est un guide de voyage pour ceux qui auraient envie d'aller faire un tour en Palestine. Il y en a pas mal, il y en a certains qui sont allés déjà, je pense, ici. Et bon, alors on va trouver tous les petits tuyaux pour l'hébergement, pour la restauration, tout ça. mais par contre, c'est un livre très riche au niveau de la culture palestinienne, la culture du peuple palestinien, sur les lieux aussi historiques, sur le patrimoine. Et aussi, c'est un livre qui est très riche en documentation sur pour avoir des contacts avec des associations locales qui se battent pour le bien-être du peuple palestinien. Voilà. Yann.
Alors, moi, je vais être plus bref. Je vais parler du livre « Boire la mer à Gaza » de Amira Haas. Amira Haas, c'est une journaliste israélienne. « Boire la mer à Gaza » vient d'un proverbe arabe qui veut dire « va au diable », comme quoi Gaza est vu un peu comme un enfer. Et en fait, c'est un recueil... c'est un recueil d'articles qui ont été écrits et publiés dans le journal Ares. Voilà. Et en fait, elle décrit des petits faits quotidiens des soldats de l'armée israélienne et elle dénonce le mépris et l'arrogance de cette armée. Mais pour autant, elle n'épargne pas l'incompétence de l'autorité, des dirigeants de l'autorité palestinienne. Voilà. Shlomo Sand, comment le peuple juif fut inventé. Donc, le titre décrit bien, résume bien le thème de ce livre. Voilà, donc, en fait, dans la première partie de ce livre, c'est l'historiographie sioniste écrite au 19e et 20e siècle. La deuxième partie, c'est plutôt Shlomo Sand déconstruit ce qu'il considère comme le mythe du peuple juif, parce que en fait, avant l'avènement du sionisme, le peuple juif. Les populations juives, puisque c'est pas un peuple, pour Shlomo Sand, la population juive donc ne se reconnaissait qu'à travers sa religion et non comme un peuple. Voilà. Donc. Oui, voilà, je suis prête. Et ensuite, voilà. Donc, boycott, désinvestissement, sanctions, c'est écrit par Omar Barghouti. Et donc, c'est BDS, donc, pour résumer. C'est un mouvement, un grand mouvement initié par la société civile palestinienne. Sur le modèle du boycott au temps de l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà, donc dans le livre, Omar Barghouti nous explique le pourquoi de ce boycott, de ce mouvement. Et aussi, il donne des arguments à ceux qui sont contre ce boycott-là. Voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que en tant qu'individu, que consommateur, on a une action possible pour soutenir ce mouvement. Gaza, la vie en cage, de Hervé Kempf et Jérôme Ecker. Donc, Hervé Kempf, il est journaliste au Monde. Voilà. Pardon ? Il est venu ici. Voilà, voilà, Jérôme Ecker, c'est le photographe. Alors là, c'est des témoignages donc sur le quotidien des Gaziotes. Gaziotes, excusez-moi. Voilà. Et également des colons israéliens qui vivaient à Gaza, puisqu'il a été écrit en 2004. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi le témoignage de ces colons et où ils arrivent. Ceux qui enferment arrivent à s'enfermer eux-mêmes derrière des murs, des barbelés, et puis la peur surtout, la peur des deux côtés. Quoi. Vraiment, ils sont terrorisés des deux côtés. Voilà, et je trouve que c'est un regard, des témoignages inhabituels, voilà, de ce que j'ai pu lire là. Et puis, il y a de très belles photos en noir et blanc. Voilà. Je vous le recommande également, parce que les photos sont très belles. Voilà. C'est tout. Donc, je donne la parole à...
Oui. Claire, tu as des...
Et donc, moi, j'ai mis à côté quatre numéros de la revue de l'UGFP, de l'autre côté. Et ensuite, j'ai mis aussi ici c'est de la documentation sur une des associations israéliennes dont j'avais parlé, qui s'appelle Zorkot. Donc là, il y a un petit dépliant d'informations. Et ça, c'est une carte de Tel Aviv qu'ils ont fait. Enfin, je vous expliquerai ce que fait cette association et qu'on a traduit en français. Je vais vous expliquer.
Sinon, j'ai des titres, j'ai fait des photocopies de titres d'ouvrages recommandés par Claire Mail. Et puis, il y a quelques sites aussi. Donc, voilà, je vais les laisser.
Ils sont disponibles
là, si vous êtes intéressés.
Et tu peux donner aussi la signification de BDS.
Elle l'a dit déjà. C'est une petite code d'investissement sensible. Ouais. Bien.
Par rapport au BDS, le comité Palestine lancera à partir du 20 octobre là, la création de collectifs pour mettre en place justement des actions de boycott, des investissements en sanction sur le département de l'Aveyron. Voilà, il y aura des conférences de presse qui vont organiser à ce sujet. Voilà.
Alors donc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien loin, mais bon.
Après,
quant à savoir si j'apporte la parole. Quand Liliane m'a demandé si c'était possible que je vienne, je crois que les choses qu'elle m'a dites, enfin, ce ne sera sûrement pas ses termes exacts, mais. C'est qu'en revenant de Palestine, quand elle racontait ses expériences, des fois, elle avait du mal à se faire comprendre ou à avoir de l'incrédulité, enfin, des choses comme ça. Donc, ça tournait un peu sur la difficulté d'expliquer ce qui se passe en Palestine et, je sais pas, peut-être la difficulté de certains d'y croire ou de se faire un point de vue. Et donc, j'ai proposé de parler un peu d'historique, c'est-à-dire qu'on peut parler de ce qui se passe en Israël et en Palestine de tas de points de vue, du fonctionnement des sociétés, du point de vue économique, du point de vue géostratégique, enfin, il y a plein de choses à dire. Et moi, il y a une chose que je trouve très intéressante et qui est en général assez peu connue, c'est de parler un peu de l'histoire du sionisme dans l'histoire du judaïsme européen, puisque c'est en Europe que ce mouvement est né. Et en particulier du judaïsme est-européen, puisque vous savez peut-être qu'au 19e et jusqu'au début du 20e siècle, les communautés juives étaient très très nombreuses en Europe de l'Est. Et il y avait entre 6 et 8 millions de personnes qui vivaient dans ce qui s'appelait la zone de résidence pour les juifs dans l'Empire russe, c'est-à-dire une grande bande entre la mer Baltique et la mer Noire. C'était le lieu de l'Empire russe où les Juifs avaient le droit d'habiter. Et donc, en fait, de fait, ils vivaient un peu ils vivaient en communauté, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des villages et des villes, des grandes villes, qui étaient à moitié ou aux deux tiers entièrement juives, c'est-à-dire avec des gens qui vivaient avec leur façon de vivre, avec leur propre langue, le yiddish, qui n'était pas la même que celle des voisins, avec leurs propres jours fériés, etc. Les Juifs qui ont vécu jusqu'au début 19e, on peut dire, encore sous une forte emprise du religieux, et laquelle emprise du religieux a décru, comme dans le monde chrétien, et s'est posé la question des frontières, en fait, de ces communautés qui formaient une société diasporique, c'est-à-dire... pas la diaspora d'un État, mais une société, c'est-à-dire une culture qui vivait sans souveraineté sur un territoire et sans État. Et donc, l'emprise du religieux ayant décru, s'est posé la question de comment continuer cette culture alors qu'il y avait beaucoup d'appétence pour... visiter en quelque sorte le monde chrétien, le monde profane. Et il y a eu des gens qui ont, comme alors, le 19e siècle, c'est en Europe le siècle des nationalismes. Et donc, les nations dans l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois qui commencent à lutter, enfin des groupes militants en tout cas qui luttent pour leur indépendance. Et donc, beaucoup de questions pour tous ces groupes sur la culture, sur comment faire vivre leur, leur propre culture. Et donc, chez les Juifs, la question s'est posée de la même manière. C'est-à-dire qu'effectivement, Shlomo Sand a raison. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'existe pas le peuple juif. C'est-à-dire que quand c'est revendiqué par des Juifs... c'est une revendication mensongère, mais quand c'est pensé par les gens qui ne sont pas juifs et qui le pensent très fortement, c'est aussi complètement mensonger. Il y a eu des communautés juives avec des cultures juives, chaque fois en complète relation avec le milieu environnant, les sociétés dans lesquelles elles vivent. Et donc, en Europe de l'Est, il y avait cette société yiddish qui avait une vie culturelle assez forte. Et donc, fin 19e, début 20e, en fait, sont nés beaucoup de partis politiques au sein de ce monde juif qui se positionnaient pour donner des propositions, en quelque sorte, de comment faire vivre cette culture dans un monde où les frontières de la religion avaient, en quelque sorte, disparu, quoi. Et donc, la plupart des gens n'étaient pas très militants et il y avait beaucoup de mouvements dans ces populations, en particulier beaucoup de gens qui partaient vers l'Ouest, qui partaient vers les États-Unis, parce que les conditions de vie étaient quand même assez dures, qui partaient vers l'Europe occidentale. Et puis, il y avait aussi des gens qui luttaient pour ce qu'ils appelaient l'autonomisme, c'est-à-dire des formes d'autonomie culturelle, ça veut dire avoir des écoles yiddish, avoir... des universités, avoir la possibilité de faire des études longues, etc. Des gens qui vivaient, qui luttaient au sein de mouvements révolutionnaires, en particulier le Bund, qui était un mouvement révolutionnaire juif qui disait « nous voulons une meilleure justice sociale, nous avons quelque chose de particulier à dire en tant que juifs en Europe et nous voulons rester en Europe ». Et puis, il y avait des mouvements sionistes qui disaient en Europe, c'est impossible, les Juifs n'arriveront jamais à vivre, l'antisémitisme est trop fort, il nous faut fabriquer un État, une société diasporique, ça ne vaut rien. Et alors, bon, il y a eu des questions sur à quel endroit fonder cet État, mais bon, quand même, majoritairement, l'idée était de fonder un État en Palestine. Donc, le mouvement sioniste, à ce moment-là, était un mouvement très minoritaire, comme les autres partis politiques. Et il y a bien sûr une question, c'est comment se fait-il qu'un mouvement si minoritaire soit arrivé à créer un État ? Mon avis sur la question, et c'est pas je ne suis pas la seule à avoir cet avis-là, c'est que parmi tous ces mouvements qui avaient des propositions à faire pour vivre soit en Europe, soit hors d'Europe, l'Europe a plébiscité, à mon avis, le sionisme. D'une part parce que l'existence d'une société diasporique, c'est-à-dire de gens qui ont une culture, qui font vivre une culture au sein d'autres sociétés, sans avoir un territoire à eux, une souveraineté sur un territoire, je crois que c'est assez insupportable, pour en tout cas les sociétés européennes. On peut voir aujourd'hui la situation des Roms est toujours la même. Et donc, je pense que ça, c'est très très dérangeant, c'est-à-dire que c'est une altérité forte qui existe au sein de l'Europe, et l'Europe qui veut vivre avec une organisation politique en État-nation. Et donc, le sionisme était en fait le mouvement politique qui se calquait vraiment sur les façons de penser politique européenne, c'est-à-dire nous voulons être une nation comme les autres, donc nous voulons un État-nation. Il était bien sûr hors de question de laisser un territoire aux Juifs au sein de l'Europe. Et donc, il y a des gens qui ont dit l'avenir des Juifs, c'est créer un État en Palestine. Alors, il y a très peu de militants, fin 19e et début 20e siècle, très peu de militants sionistes qui sont allés effectivement s'installer en Palestine. Il faut dire que les conditions étaient très dures pour des Européens qui, en plus, en général, n'étaient pas du tout agriculteurs. Et que le mot d'ordre du sionisme, c'était « nous devons nous installer en Palestine et nous devons enfin, coloniser le terrain, c'est-à-dire s'accrocher à la terre. Bon, c'est dans tout un mouvement aussi de le travail de la terre, ça donne des gens musclés, le plein air, etc. Il y a toute une espèce d'idéal hygiéniste qui marche avec ça. Et donc, ils étaient très peu nombreux en Palestine, et puis leur nombre a commencé quand même à augmenter de façon un peu conséquente à partir des années 30, quand le nazisme s'est installé en Allemagne, que les juifs allemands et d'autres juifs européens ont senti que vraiment il était temps de partir et que les États-Unis et les pays d'Europe de l'Ouest avaient fermé leurs frontières à l'immigration, déjà, toujours. Et donc, à ce moment-là, a commencé à exister, alors je ne saurais plus vous citer les chiffres de tête, mais enfin, a commencé à exister en Palestine un nombre de juifs d'origine européenne suffisamment conséquent pour que ça puisse commencer à être crédible de créer un État, parce que pour créer un État, il faut quand même pas mal de monde. Et voilà, il fallait quand même faire venir pas mal de gens d'Europe pour ça. Et c'était pas très facile parce que finalement c'était quelque chose qui ne séduisait pas beaucoup les juifs européens. Alors dès le début du XXe siècle, on peut dire que dès que les Palestiniens, les gens qui habitaient en Palestine, qui étaient chrétiens, musulmans ou juifs palestiniens d'origine, quand les populations autochtones ont commencé à comprendre, enfin et les représentants politiques ont commencé à comprendre qu'il y avait des Européens qui venaient pour créer un État ici, évidemment que les gens n'étaient pas d'accord, et on comprend mal comment les gens pourraient être d'accord avec voilà, une telle situation. Et donc, voilà, les heurts ont commencé à être assez violents, et à partir de... Enfin, après la Première Guerre mondiale, ce sont les Britanniques qui ont eu mandat sur la Palestine. Et au bout d'un certain temps, les Britanniques ont commencé à trouver que la situation était ingérable. C'est-à-dire que non seulement les sionistes juifs et les Palestiniens se battaient entre eux, mais en plus, ils s'attaquaient aussi aux soldats britanniques. Et donc, les Britanniques ont demandé à la Société des Nations de s'occuper du problème, et ils ont dit, nous, on va partir d'ici, quoi. Enfin, je simplifie grossièrement, mais c'est quand même un peu ça. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, a été voté à l'ONU un plan de partition de la Palestine, donc entre un État juif et un État arabe. Et quand, en 1948, Ben Gurion a déclaré donc, l'indépendance de l'État d'Israël, il faut bien voir que si un État a tout à coup pu exister, c'est que des structures étatiques en fait avaient été créées depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire on peut dire déjà depuis le début des années 20, le mouvement sioniste en Palestine était fortement structuré, Ben Gurion a pris à peu près la tête du mouvement sioniste en Palestine à ce moment-là. Et donc, ils ont commencé à créer des structures pour qu'un État puisse fonctionner un jour. Et donc, l'idée de Ben Gurion, alors bien sûr que dans le mouvement sioniste, dans tous les mouvements, il y a toujours plein de courants différents, c'est jamais monolithique. Et donc, je dis, Ben Gurion a pris la tête du mouvement sioniste dès les années 20, c'est-à-dire que dans le mouvement sioniste, il y avait des gens qui disent... Alors, il y avait des gens... Enfin, sous le terme de sioniste, sionisme, en fait, on englobe pas mal de choses, y compris des gens qui se disaient sionistes spirituels, c'est-à-dire que, en particulier des juifs allemands, comme Gershom Scholem, qui avaient l'idée que pour que la culture juive continue à exister, il fallait faire fleurir en fait un grand centre intellectuel juif en Palestine, mais ils n'avaient pas du tout l'intention de créer un État. Et donc ils étaient plusieurs, Martin Buber, enfin des gens comme ça, qui dans les années 20 en Palestine ont signé une pétition adressée au gouvernement britannique pour leur demander d'interdire la création de milices juives armées en Palestine, en disant, vous allez augmenter le niveau de violence qu'il y a dans cette région, il ne faut pas le faire. Enfin, juste pour expliquer que, voilà, dans le mouvement sioniste, il y a aussi eu des mouvements divergents. et que le mouvement qui a, enfin le groupe qui a réussi, le groupe de Ben Gurion, qui dans l'idée était, nous devons coloniser le terrain, et si les gens sont pas d'accord, il faut les chasser, quoi. Et donc Ben Gurion a écrit et a émis la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 48, en omettant bien de stipuler des frontières à cet État, et son idée qu'on peut voir dans ses mémoires, qu'on peut aussi voir dans les travaux de ce qu'on appelle les nouveaux historiens israéliens, qui sont plus tellement nouveaux maintenant, mais qui sont des gens qui, à partir des années 1970, ont travaillé sur les archives sionistes, montre bien que l'idée de Ben-Gurion, bon, il n'était pas le seul, bien sûr, c'était occuper le terrain. On nous donne un État qui, bien sûr, ne nous suffit pas, mais il faut le prendre, et par la guerre, nous essaierons de gagner de plus en plus de terrain. Donc, depuis le départ, c'est un État qui n'a pas de frontières, qui ne veut pas avoir de frontières. Et je pense que, voilà, enfin, ça commence, bon, toute cette histoire commence au début du XXe siècle, et depuis le départ, c'est une catastrophe annoncée, quoi. Je pense qu'il faut bien voir que, parce que quand on écoute, bon, évidemment, c'est difficile de se faire une idée, la réalité, c'est toujours extrêmement compliqué, et on ne sait jamais trop où pêcher les informations, quoi. Mais il faut bien voir que, enfin, à mon sens, le départ de cette idée, c'est-à-dire prendre la Palestine et la diviser pour en faire deux États, dont un État est créé par des gens qui viennent de complètement ailleurs, je pense que pour les gens qui étaient sur place, c'est inacceptable. Et je crois qu'il faut penser ça, même quand on n'était pas sur place, comme quelque chose d'inacceptable. Mais je crois que tous les États se sont construits de cette façon-là. Quand on regarde comment l'État français s'est construit, je veux dire, c'est pas plus acceptable non plus. Mais je crois que c'est assez important de prendre ça en compte, d'autant qu'on dit souvent, enfin, chez nous, dans nos médias, mais aussi dans les opinions courantes, ah ben quand même, si les Palestiniens avaient accepté le partage en 48, on n'en serait pas là. Mais il n'y avait vraiment aucune raison pour qu'ils acceptent. Et personne, je veux dire qu'ici, en Aveyron, personne ne serait d'accord pour que tout à coup, une population venue d'ailleurs vienne faire son propre État. C'est impensable, quoi. Et je crois que ça, c'est une des clés de la situation. Et c'est une revendication, je pense, très forte chez les Palestiniens de reconnaître, au moins reconnaître ce qui s'est passé. D'autant que, donc, bien sûr que les Palestiniens n'étaient pas d'accord, et bien sûr qu'ils ont essayé de se battre. Bien sûr qu'il y a eu des armées arabes, mais chacun a ses intérêts. Il n'empêche que, militairement, les Palestiniens ont perdu, et que l'OLP a reconnu, déjà dans les années 80, que voilà, l'État d'Israël existe et qu'on va faire avec. Alors bien sûr, ils l'ont reconnu, pas parce qu'ils sont tombés amoureux des Israéliens, mais parce que la situation, les rapports de force font qu'ils ont été obligés de le reconnaître. Et que je pense que jamais les Israéliens, mais le reste du monde non plus, n'a reconnu que l'OLP avait reconnu l'État d'Israël. Et que l'État d'Israël s'est constitué par la guerre, puisqu'il fallait se faire de la place. Il s'est constitué par les historiens israéliens qui ont travaillé sur les archives sionistes le montrent bien, il s'est constitué par des massacres, des déportations de populations. Et on observe que depuis ce temps-là, les solutions choisies par l'État d'Israël n'ont toujours été que des solutions militaires. Alors, je pense que c'est important d'avoir cet arrière-plan présent un peu pour se faire une idée encore de la situation d'aujourd'hui. Et, j'espère qu'il y aura surtout des questions. Je vais arrêter là ma présentation et je voudrais juste vous lire un peu des textes qui ont été écrits par des militants israéliens qu'on appelle souvent militants anticolonialistes pour montrer que, voilà, je pense que pour prendre position, alors bien sûr, il y a tout un historique, il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui, mais il y a aussi des groupes palestiniens, des groupes israéliens qui sont multiples et variés. Et je pense que pour essayer de se faire une opinion, parce que je ne suis pas venue ici apporter une parole, je pense que le plus intéressant, c'est que chacun tâche de se faire un peu une position, quoi. Et donc, moi, je trouve que pour se faire une position, c'est intéressant de regarder un peu, d'écouter un peu tout ce que disent tous ces groupes. Et il faut choisir soi-même quelles sont les pensées qui, à son propre avis, tiennent la route et quelles sont celles qui ne tiennent pas la route. Alors moi, je vais vous parler de gens qui, pour moi, à mon point de vue, tiennent vraiment très fortement la route. En premier, l'association Zohrot. C'est donc cette association qui a fait cette carte de Tel Aviv. Ce sont des gens qui disent qu'il faut parler la Nakba en hébreu, c'est-à-dire dire ce qui s'est passé en 48 et ensuite pour les Palestiniens, mais dans la langue hébreu, pour que le public israélien juif qui parle hébreu puisse l'entendre. Et ils font, ils travaillent beaucoup, donc ils font des recherches sur les sites, les villages palestiniens qui ont été détruits. Vous savez peut-être qu'en 48, il y a plus de 400 villages palestiniens qui ont été complètement rasés. Et ensuite, ça a continué. Mais ces lieux se reconnaissent dans le paysage. C'est-à-dire que dans le paysage, vous pouvez voir, enfin, les gens qui savent regarder ça, voient des pierres, des figuiers de barbarie et savent qu'à tel endroit, il y a eu un village. Et donc, cette association, Zohrot, est une association qui fait toute une documentation sur les villages qui ont été détruits, c'est-à-dire qui pose des signalisations. Et ils font des visites, ils organisent des visites de ces lieux avec des visites qui sont destinées à des Palestiniens et des Israéliens juifs. Et ils demandent à des gens qui ont vécu précédemment ou qui avaient de la famille qui vivait là précédemment d'expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans ce village, qu'est-ce que c'était cette maison avant et comment les gens vivaient. Et ils produisent de la documentation là-dessus. Et donc cette carte de Tel Aviv que j'ai amenée là, c'est une carte qu'ils ont faite où ils montrent sur la vraie carte de Tel Aviv d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut prendre ça pour se balader à Tel Aviv et se retrouver dans les rues, et ils montrent sur la carte là où il y avait avant des villages palestiniens qui ont été rasés complètement. C'est le genre de travail qu'ils font. Alors je vais vous lire là un extrait d'un texte qui a été écrit par une femme qui s'appelle Norma Mouzi, qui est donc à l'origine de cette association Zohrot, et voilà ce qu'elle dit. Les Juifs en Israël, du moins la plupart d'entre eux, vivent dans une complète ignorance ou même le déni du désastre palestinien qui a eu lieu en 1948. La Nakba n'a pas de place dans notre langue, dans le paysage, dans l'environnement et la mémoire collective des Juifs en Israël. Quand on voyage en Israël, on peut voir une signalisation ou des mémorials qui créent et soutiennent le narratif juif israélien. Des événements juifs qui ont eu lieu il y a plus de 2000 ans sont célébrés par ces lieux de mémoire, alors qu'on ne peut voir nulle part les lieux de mémoire palestiniens. Qui plus est, il y a une tentative d'effacer cette mémoire de la conscience collective et du paysage. Nous, les Israéliens, apprenons dans nos écoles que les Juifs sont venus en Israël pour transformer le désert en un pays florissant, car nous sommes, entre guillemets, un peuple sans terre, retournant sur une, entre guillemets, terre sans peuple. Zohrot est une ONG dont le but est d'introduire la Nakba palestinienne au sein du public juif israélien, de parler la Nakba en hébreu, de faire en sorte qu'il y ait une place pour la Nakba dans la langue et dans l'environnement. Ceci pour promouvoir une mémoire alternative à la mémoire hégémonique sioniste. La Nakba est le désastre du peuple palestinien, la destruction de villes et de villages, le meurtre, l'expulsion, l'effacement de la culture palestinienne. Mais la Nakba, je crois, est aussi notre histoire. L'histoire des Juifs qui vivent en Israël, qui jouissent des privilèges des vainqueurs. Zohrot a été fondée au début de l'année 2002 et son but principal est d'apporter la connaissance de la Nakba palestinienne aux Juifs israéliens. Une des idées de base de notre travail est que la Nakba est le niveau zéro du conflit israélo-palestinien. La prise de conscience, la reconnaissance de la Nakba par les Juifs israéliens et la mesure de notre responsabilité dans cette tragédie sont essentielles pour la fin de la guerre et le début du processus de réconciliation entre les peuples de Palestine-Israël. L'ambition de Zohrot est de recréer la Nakba en hébreu, en d'autres termes, de faire exister un espace où on puisse parler de la Nakba ou écrire à son sujet dans la langue hébreu. Dans ce but, nous avons créé un site web qui contient une banque de données de tous les villages palestiniens détruits depuis 1948 et les noms des localités israéliennes qui ont été construites sur les mêmes lieux. Il y a aussi des cartes de ces villages détruits et les détails les concernant. Le site présente aussi les différentes activités de Zohrot. Ce site est important car il place la Nakba palestinienne dans l'espace virtuel des locuteurs hébreux qui surfent sur le web. Zohrot est un nom inhabituel qui signifie en hébreu « le souvenir » dans une forme féminine. On nous demande souvent pourquoi nous n'avons pas choisi la forme masculine du mot. Parce que la forme masculine du mot, telle qu'elle est présente dans le discours sioniste, est violente et nationaliste. Le but de Zohrot est de promouvoir une autre forme de mémoire, une forme alternative qui permettrait l'expression d'autres histoires souvent laissées sous silence. De plus, Zohrot fait un effort particulier pour créer un espace pour la mémoire des femmes dans la Nakba palestinienne. Le nom Zohrot comprend tout ça. Apprendre la Nakba est un pas important pour les Juifs qui vivent en Israël. Ça reflète souvent un véritable désir de savoir et de compréhension. Mais apprendre n'est pas suffisant. La Nakba n'est pas l'histoire d'un autre peuple qui aurait eu lieu dans une autre région. C'est une histoire dont nous, Juifs israéliens, avons la responsabilité. Apprendre, c'est prendre la responsabilité. Pardon, apprendre sans prendre de responsabilité n'est pas suffisant de mon point de vue. Qu'est-ce que je veux dire par prendre une responsabilité? Je veux dire admettre la vérité, accéder à une compréhension profonde de la tragédie qui a eu lieu et prendre la responsabilité de notre part dans cette tragédie. Admettre le droit au retour, personnel et collectif, pour tous les réfugiés qui ont été expulsés et espérer la mise en place effective de ce droit, soit en rendant la terre, en payant des compensations ou en mettant en œuvre un retour effectif. Tout cela ferait de l'apprentissage de la Nakba une avancée viable vers la réconciliation. Cette position est compliquée pour les Juifs israéliens. C'est difficile pour nous de renoncer à l'image d'Israël comme État juif et démocratique, une image qui sera mise en danger si nous choisissons d'accepter le droit au retour. Permettre le droit au retour va changer l'équilibre démographique en Israël et l'État israélien ne pourrait pas continuer à exister dans sa forme actuelle. Je crois que dans ce nouvel État, la vie serait bien meilleure, à la fois pour les Palestiniens et les Israéliens. Ensuite, donc une autre personne qui est à l'origine de cette association, qui s'appelle Ethan Brandstein, a écrit un jour un très court texte à propos de l'importance de la signalisation qu'il pose dans le paysage pour... faire connaître l'existence des anciens villages palestiniens. Et il dit, la signalisation, c'est la reconnaissance d'une dette morale, c'est la reconnaissance des torts faits et de la tragédie, c'est la reconnaissance de la responsabilité dans le sort des réfugiés et de la nécessité du droit au retour pour la réconciliation. Et ce qu'il dit, c'est que leur travail, le travail qu'ils font, ce qu'ils visent, en fait, c'est à mettre le droit au retour des Palestiniens dans l'agenda public en Israël. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, je voudrais vous lire un texte qui a été envoyé par une femme qui s'appelle Nomi Katzion, qui est une habitante de Sderot. Vous savez, Sderot est un de ces villages qui reçoit parfois des roquettes arrivant de Gaza et qui a été une des justifications de la guerre, enfin de le massacre fait par l'armée israélienne à Gaza au début de l'année 2009. Et donc, au moment, c'était le 8 janvier 2009, en plein milieu de cette guerre, cette femme a écrit le texte qui suit. C'est un texte qui a été transmis par une organisation qui s'appelle New Profile, qui est une organisation israélienne qui travaille donc pour donner un nouveau profil à la société israélienne. C'est-à-dire, ils disent que la société israélienne est une société entièrement militaire, complètement centrée sur la chose militaire, où toutes les solutions qui sont envisagées ne sont que des solutions militaires, et eux veulent transformer cette société en une société civile. c'est-à-dire qui travaille à la civilisation de la société israélienne. Donc cette femme écrivait « Le bain de sang qui a lieu actuellement à Gaza ne se fait ni en mon nom, ni pour ma sécurité. Les maisons détruites, les écoles bombardées, les milliers de nouveaux réfugiés ne se font ni en mon nom, ni pour ma sécurité. À Gaza, il n'y a pas assez de temps aujourd'hui pour célébrer les enterrements. Les cadavres sont mis deux par deux dans les réfrigérateurs car il n'y a plus assez de place et nos journalistes jouent de manière acrobatique avec des stratégies explicatives pour trouver des images qui parleront d'elles-mêmes. Mais dites-moi, qui a-t-il à expliquer ? Après cette période de calme si importante, c'est-à-dire que juste avant, il y a eu 5 mois de cessez-le-feu. Donc après cette période de calme si importante qui nous a tous aidés mentalement et émotionnellement, qui nous a permis d'avoir à nouveau l'expérience d'une situation normale, nos dirigeants nous ont ramenés en arrière à la même situation de blessure et d'angoisse. Les Qassam me font peur. Depuis que la guerre a commencé, je n'ai pas osé traverser la rue. Mais j'ai encore bien plus peur du ton monolithique de nos médias et de notre opinion publique. J'ai peur, car sous l'écran des discours orwelliens et les corps des enfants montrés à la télévision comme un service qu'on nous rendrait, nous perdons la capacité de voir l'autre côté, de ressentir, d'être choqué, d'avoir de l'empathie. Sous le nom de code Hamas, les médias ont créé pour nous un énorme démon sombre et sans visage, sans corps et sans voix. Un peuple 1,5 million de personnes sans nom. Un profond courant de violence coule dans les sociétés, dans les veines de la société israélienne comme une maladie mortelle. Et il devient toujours plus puissant d'une guerre à l'autre. Il n'a ni odeur ni forme, mais nous le sentons très distinctement ici. C'est une sorte d'euphorie, de plaisir de la gâchette, de joie de la revanche, d'enivrement par le pouvoir et d'amour de Mars. Je me suis sentie réellement protégée quand ils ont obtenu ce cessez-le-feu, donc 5 mois plus tôt. Et je demande à nos dirigeants, avez-vous retourné chaque pierre pour essayer de prolonger le calme, pour étendre le cessez-le-feu, pour l'utiliser comme un accord à long terme, pour résoudre les problèmes de frontières et trouver des solutions avant que tout n'explose à nouveau? Êtes-vous allé au bout du monde pour chercher les bons médiateurs? Et pourquoi avez-vous balayé d'un revers de main l'initiative française de cessez-le-feu quand la guerre a commencé? Pourquoi continuez-vous à rejeter à ce moment précis toutes les possibilités offertes de négociation? Pensez-vous que nous n'avons pas atteint notre quota maximum de Qassam et que nous pouvons en supporter encore? Pensez-vous qu'ils n'ont pas atteint le quota d'enfants palestiniens tués que le monde peut digérer? C'est extrêmement difficile en ce moment de vivre à Sderot. La nuit, IDF, l'armée israélienne, écrase les infrastructures et les êtres humains et les murs de nos maisons tremblent. Le matin, nous recevons des Qassam de plus en plus sophistiqués chaque fois. À midi, nous enterrons les meilleurs de nos fils qui ont payé de leur vie pour une autre guerre juste, entre guillemets. Le soir, après beaucoup de difficultés, nous nous débrouillons pour contacter nos amis désespérés à Gaza. Ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, pas de nourriture, aucun endroit pour se cacher. Et les mots de haine, une fillette de 14 ans, dont l'école a été bombardée et la camarade de classe tuée, ne quittent pas ma tête. Elle nous écrit dans un anglais parfait, un mail que sa mère a réussi à nous envoyer. Aidez-nous, nous sommes des êtres humains après tout. Et enfin, le dernier texte que je voudrais vous lire, c'est le texte d'une association israélienne qui s'appelle Tarabout Itabrout. C'est un mouvement arabe et juif qui travaille au changement politique et social en Israël même. Et il nous a envoyé ce texte il y a quelques mois, c'était à la fin du mois de juin, au moment où il faisait des manifestations de soutien à un village palestinien non reconnu en Israël. Vous savez peut-être qu'il reste encore quelques villages palestiniens en Israël. Et ce sont des villages qu'ils appellent des villages non reconnus, c'est-à-dire des villages qui n'apparaissent pas sur les cartes routières et géographiques de l'État d'Israël. Et ce sont des villages où il n'y a aucun service public desservi. Et donc, il dit ceci. Au centre d'Israël, à peine 20 km au sud-est de Jaffa, plusieurs centaines de citoyens arabes d'Israël vivent dans l'une des nombreuses zones de peuplement palestinien non reconnues en Israël, c'est-à-dire qu'officiellement, l'endroit n'existe pas. Il n'y a pas d'électricité, pas de service de santé, pas d'éducation, pas d'évacuation d'ordures, pas d'égouts, pas de planning urbain. Et le village vit sous une menace permanente de démolition et d'éviction. Dans le registre de la population, la véritable adresse des résidents, Damar, c'est le nom du village, n'est pas mentionnée. Ils sont invisibles. Les autorités souhaitent le départ de ces villageois. Ici comme ailleurs, la discrimination ethnique se combine avec les perspectives de profit très élevées pour les promoteurs immobiliers. Depuis janvier 2010, la démolition paraît imminente. Le colonialisme de l'intérieur est une réalité à laquelle les citoyens arabes d'Israël doivent faire face. Des activistes de Tarabout ont résolu de soutenir la cause des villageois qui protestent quotidiennement afin de sauver leur foyer. Les résidents de Damar sont propriétaires de leurs terres. L'origine des familles est diverse. Certaines d'entre elles sont arrivées en 1951 après avoir reçu la terre en compensation, entre guillemets, de leurs terres perdues dans la guerre de 1948. La surface de la terre reçue a été calculée sur la base de 15% de la terre d'origine, ce qui était le taux de compensation courant à cette époque. La terre a été inscrite au cadastre comme terre agricole, ce qui signifie que seules les petites constructions agricoles y sont légales. Au départ, le village a établi une sorte de régime de statu quo avec la municipalité. Les résidents n'ont pas exigé d'obtenir les services qui leur étaient dus, et la municipalité, en retour, a laissé les résidents tranquilles. Puis, au fil des ans, les résidents de Damar ont essayé de modifier la définition de leurs terres pour accroître leurs possibilités de logement. Ils ont préparé un plan détaillé avec l'aide du Centre arabe de planning alternatif, mais le comité de planning et de construction du district n'a jamais débattu de ce plan. Les résidents se sont adressés à toutes les institutions judiciaires et gouvernementales possibles pour que le comité de plan, qui est sous l'autorité du gouvernement, évoque leur cas, en vain. En janvier 2008, une cour israélienne a suspendu les ordres de démolition émises par le Conseil jusqu'à ce qu'une solution alternative puisse être trouvée. 2 ans plus tard, le comité de planning et de construction n'a toujours pas débattu du plan de développement. En janvier 2010, le Conseil régional a ignoré la décision de la Cour de justice et a listé 13 maisons comme destinées à la démolition. Les officiers de l'armée et de la police, accompagnés du représentant du Conseil, se sont rendus au village pour préparer l'exécution de cet ordre. Depuis janvier, grâce à des protestations conjointes de Juifs et d'Arabes, la mise en œuvre des ordres de démolition a été retardée et le comité de planning et de construction a accepté de débattre du plan qui lui a été soumis, mais rien n'est encore gagné pour l'instant. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un petit peu une image de ce qu'on peut entendre en Israël et qu'on peut entendre ici si on se branche sur les bons canaux d'information, mais qu'on n'entend jamais dans le grand public, en quelque sorte, ici. Et voilà, je vais m'arrêter de parler, je pense que peut-être on peut, s'il y a des questions, des remarques.
Je crois qu'il faudrait parler un peu de ce qui s'est passé après la fin de la Première Guerre mondiale, là-bas en Israël, puisqu'il y a eu des achats de... Ils se sont installés en achetant des terres, petit à petit, ils ont mité le pays. Et la fameuse phrase « un peuple sans terre pour une terre sans peuple », ça c'est M. Balfour, qui était ministre britannique des Affaires étrangères, je crois, qui a dit ça. Il a totalement ignoré qu'il y avait des Palestiniens.
Mais je pense que dans l'atmosphère impérialiste européenne de l'époque... Les gens qui vivaient dans les pays arabes, c'était pas vraiment des êtres humains, déjà. Mm-hmm. Ensuite, il y a plein de forces qui sont conjointes dans ces histoires-là, parce que vous parlez de M. Balfour. M. Balfour faisait partie de ces courants millénaristes qui pensent que les Juifs doivent tous revenir en Palestine pour que le deuxième avènement du Christ arrive. Donc, il y a plein de courants qui se sont mis... de la partie pour que cette affaire réussisse, c'est effectivement bien sûr que les militants sionistes qui ont commencé à s'installer en Palestine, il faut coloniser des terres. Et les kibbutz ont été une entreprise de colonisation agriculturo-militaire. Et bien sûr qu'il fallait créer un fait accompli, sinon rien n'aurait jamais existé. Mais je crois que... Voilà, donc la terre a été colonisée, mais bon, quand même assez peu. Je veux dire, du point de vue de la surface, ça n'a pas représenté grand-chose. Et du point de vue du nombre des gens, comme je disais tout à l'heure, jusqu'aux années 30, ça ne représentait quand même pas une population très importante. Mais je crois qu'il y a tout un... Par exemple, ces kibbutz, on peut se demander comment se fait-il qu'en France, je ne sais pas trop, parce que moi, je n'étais pas trop dans ces coups-là, mais dans les années 60 ou 70, ça a été des choses très... voilà, les kibbutz, l'égalitarisme, le retour à la terre, bon, c'est magnifique. Il y a des gens qui sont
des
pas...
gens qui avaient des idées socialistes, très souvent, qui avaient organisé ça.
Pas forcément. Mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est que... qu'est-ce que c'est que cette espèce de comment dire, d'aveuglement de la part des gens ici qui ont dit « Ah voilà, une expérience socialiste, comme vous dites, enfin, eux non plus. » Et pourtant, peut-être qu'au début 20e, je peux comprendre qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait là-bas, mais dans les années 70, on aurait pu se dire « Comment ça se fait que il n'y avait vraiment personne là-bas avant ?» Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est tous, on s'embarque tous dans des histoires complètement fantasmatiques, quoi. Hein. Et donc, enfin, si vous voulez, je critique très fortement le politique israélienne. Enfin, c'est inadmissible et désastreux et scandaleux tout ça. Mais enfin, le reste du monde, c'est inadmissible, quoi. Dire que voilà, et donc c'est ce qui fait partie de ça, c'est cette espèce de légende. Ah oui, vous comprenez, les kibbutz c'est socialiste. Qu'est-ce que c'est les kibbutz? C'est des gens qui arrivent qui connaissent rien à l'agriculture, qui pour eux le climat c'est insupportable et il faut qu'ils colonisent le terrain et ils ont rien. La plupart des gens qui allaient là-bas, c'était des gens qui avaient rien, c'était des gens d'Europe de l'Est. Et qu'est-ce qu'ils font quand on a rien et qu'on est dans la merde? Eh ben on se met à plusieurs et puis on fait tous ensemble. C'est ça, quoi. Alors après, il y a eu effectivement des gens qui ont voulu faire vraiment des expériences communistes avec une idéologie, communiste dans le sens pas soviétique, quoi, mais égalitaire. Ces gens-là ont été affamés, privés de soins par Ben Gurion. Ben Gurion ne voulait absolument pas entendre du tout parler d'expériences politiques avec ce genre d'idées sociales. Donc, si vous voulez, toute cette espèce d'aura des expériences de socialisme, c'est une propagande, mais qui a marché parce que nous aimons bien marcher dans ce genre d'histoire, quoi.
Oui, je veux dire qu'ils ont profité, si on peut dire, de massacres des Juifs en Europe. C'est pour ça que l'Europe s'est sentie mauvaise conscience.
Oui, je ne suis pas si sûre. Non,
je croyais aussi. Juste, je voulais vous dire, je ne veux pas intervenir et bloquer le débat, mais on a aussi quelquefois, on a organisé ça un petit peu en tradition, après l'exposé, d'avoir un petit temps de convivialité individuelle ou pas. Mais donc maintenant, si vous avez d'autres questions, on peut continuer un petit peu sur la vision historique, puisqu'on en était là tout à l'heure, où on peut, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Allez-y, je vous en prie, on ne lève pas le doigt, on pose et...
Quel poids peut avoir les gens comme vous, les associations comme la vôtre, par rapport au gouvernement israélien?
Je ne sais pas, vous voulez que je réponde des questions une à une ou bien
non? Celle-là, ça me paraît un peu bien.
Non, parce qu'il y avait déjà une question.
Je veux dire, c'est un bon départ.
Il y avait une question tout à l'heure sur le génocide à laquelle je vais répondre.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Mais bon, on peut reprendre effectivement là et puis au gré des questions et puis répondre si d'autres questions ne se posent pas.
Oui, juste sur la Seconde Guerre mondiale et le génocide dans le... Comment les textes du plan de partition de la Palestine, il n'en est pas fait mention du tout, d'après ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas lu les textes même. Et je pense que voilà, le sionisme, c'était une idée qui convenait tout à fait à l'Europe, bien avant la Seconde Guerre mondiale déjà. Et après, la culpabilité... si vous voulez... Moi, je pense que l'Europe se prend pour le phare de la civilisation, et que bon, quand même, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ça fait un peu tâche. Et bon, mais quand même, c'était les nazis, c'est pas nous. Alors qu'il était hors de question on peut se poser la question de qu'est-ce qui se serait passé pour les Juifs s'il n'y avait pas eu le nazisme. Moi, je pense que, enfin, on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui se serait passé si, mais très probablement, ce n'était pas possible que les Juifs restent en Europe. C'est-à-dire que, après la Première Guerre mondiale, la Pologne est devenue indépendante, et il se trouve que sur son territoire, elle a récupéré la majorité des Juifs qui étaient dans la zone de résidence russe. Et les Polonais ont demandé très officiellement à la SDN, est-ce qu'il n'y aurait pas, parce que les Polonais n'avaient pas de colonies, et est-ce qu'il n'y a pas des pays qui pourraient nous prêter des colonies pour envoyer nos Juifs, parce qu'on en a trop sur notre territoire. Pas parce que les Polonais sont particulièrement affreux, mais parce que voilà, c'était la moitié des villes, la moitié des villages, et que enfin, jamais en France on pourrait accepter d'avoir une situation pareille. Donc les Polonais sont comme tout le monde. Et donc, moi je pense que voilà, la question qu'il faut se poser, c'est voilà, qu'est-ce que l'Europe est capable de faire avec des minorités qui n'ont pas d'État, quoi. Et si vraiment il y avait une culpabilité de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on aurait pris le temps un peu de réfléchir sur qu'est-ce que c'est le racisme et la situation des Roms aujourd'hui serait pas ce qu'elle est. Moi, enfin, je veux dire, c'est une. Si vous voulez, par exemple, il arrive des fois qu'il y ait des. Je sais pas, des cinémas ou des salles de spectacle qui veulent organiser des trucs sur la Palestine, et puis on entend dire ah, ils ont eu des pressions, ah, du coup, ils l'ont annulé. Moi, je pense que si les gens ne sont pas capables de tenir un peu leur pensée, s'ils ont peur d'être taxés d'antisémites, c'est qu'ils ne savent pas eux-mêmes s'ils sont antisémites ou pas. Je pense que la question de l'antisémitisme, comme n'importe quel autre racisme, c'est une question qui n'est pas du tout. Enfin, qui est toujours bien vivace, quoi. Et donc. C'est pas de la culpabilité de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les gens ils savent toujours pas qu'est-ce qu'ils pensent, quoi, c'est tout.
Les programmes existaient. Donc,
moi hein, je pense que rien n'a changé en quelque sorte, rien n'a changé. Si aujourd'hui les Juifs en France, de mon point de vue, sont pas du tout, enfin il peut exister des agressions et tout ça, mais je veux dire que on n'est pas en danger d'un antisémitisme d'État. Comme, de mon point de vue, sont en danger aujourd'hui les musulmans en France. De mon point de vue. Mais en tout cas, bon, la situation pour nous a changé vraiment, parce que c'est plus un antisémitisme d'État, mais après, le racisme il est toujours le même. Donc moi, cette histoire de dire « oui, vous comprenez la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale », non, c'est une absence de pensée sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez, du point de vue du gouvernement israélien, dans l'histoire d'Israël, on voit, si vous voulez, au moment de la création de l'État d'Israël, quand les Juifs, les rescapés des camps sont venus en Israël parce qu'en Europe, on ne voulait plus d'eux, ils ont été en but à un racisme de la part ceux qui s'appellent les Sabra, les Juifs qui étaient nés en Palestine, ou les militants sionistes qui étaient venus s'installer par militantisme. Ils ont été en but à un racisme absolument terrible. On les traitait de lupins et de savonnettes. Donc ensuite, ce sont les Juifs arabes, etc. Et puis, dans l'idée de... Enfin, là, je dévie complètement, mais ça ne veut rien, je vais continuer quand même. Dans l'idée de Ben-Gurion, il y avait le fait que c'était très important d'avoir un ennemi extérieur pour garder une communauté soudée. Et bon, il y a eu tout un élan, c'est quand même un truc un peu dingue, des gens qui créent un État dans une situation pareille, il faut reconnaître ça. Et donc, il y avait un espèce d'élan pionnier au départ, et une très grande joie en 48, tout ça. Et puis, petit à petit, avec les années, d'autres populations juives sont arrivées, parce qu'il n'y avait quand même plus assez de juifs en Europe pour occuper l'État d'Israël. Donc, ils ont fait venir des juifs des pays arabes, et puis... le racisme entre Européens et Arabes était aussi vivace chez les Juifs que chez les autres. Donc, la société a commencé à se fragmenter vraiment beaucoup. Et Ben-Gurion, dans les années 60, a pensé qu'il fallait, finalement, ces Juifs d'Europe qui s'étaient fait massacrer, qu'on méprisait tellement, on pouvait peut-être se servir quand même de ce massacre pour ressouder la communauté nationale. Et depuis ce temps-là, le génocide est utilisé comme propagande, quoi. Enfin, comme voilà, fond de commerce de la mythologie de l'État. Et je pense que les Européens qui n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils vont faire, voilà, ils prennent cette espèce de propagande, ils l'alimentent aussi, quoi. Mais bon, moi je ne crois pas que ce soit de la culpabilité. Je crois qu'on se sert de tout ce qu'on peut trouver dans, comme argument, quoi. Alors après, l'UJSP par rapport au gouvernement israélien, nous n'avons rien à voir avec le gouvernement israélien, et je ne sais même pas si le gouvernement israélien sait que nous existons. Si vous voulez, le gouvernement israélien, il s'en fout complètement de nous. Mais nous, on n'a pas tellement des choses à dire au gouvernement israélien. Nous, on a des choses à dire au gouvernement français. On a des choses à dire à la société française. Alors nous sommes très tristes parce que les gens du gouvernement français, ils sont bien plus intéressés par les dîners du CRIF que par les dîners du GFP. Donc voilà, mais c'est un peu comme, je ne sais plus, quelqu'un me posait la question de la représentativité de ces gens dont je parle, de Zohot et tout ça. Pour moi, la question, c'est plutôt... moi je suis française, nous sommes ici en Europe, je crois qu'on a quelque chose à faire en Europe à propos de ça, quoi. Et donc, il faut essayer de faire entendre des choses. La question, c'est pas tellement le nombre, la question, c'est qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce que les autres reprennent de ce qu'on dit. C'est-à-dire que, voilà, c'est à chacun de choisir les discours qu'il a envie d'entendre et de faire porte-voix, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je pense très fortement si au début du XXe siècle, le sionisme a gagné, c'est parce que ça convenait. Enfin, c'était le discours qu'il y a eu des haut-parleurs de la part des puissances en place, quoi, en Europe. Et donc, la question, c'est toujours ça, quoi. C'est comment est-ce qu'on fait entendre d'autres discours que les discours dominants et militaristes, quoi. Mais enfin, voilà, le gouvernement israélien n'a rien à faire. Alors,
en Israël, il doit y avoir des gens qui pensent aussi...
Alors, en Israël, par contre, je veux dire que tous les gens de ces associations-là, New Profile, bien sûr que nous sommes très intéressés par ce qu'ils disent, et ils sont très intéressés par ce qu'on dit et par le fait qu'on puisse faire passer leur... Enfin, je veux dire, on est toujours en contact, nous, avec ces militants-là, quoi. C'est sûr que... Ouais, c'est très important, mais bon, l'idée c'est pas de rester que entre militants, quoi, parce que ça fait circuit fermé, quoi. Hein, mais notre poids, de toute façon, notre poids. Enfin, je veux dire, les Juifs sont tellement peu nombreux que le poids des Juifs, c'est peanuts. C'est quels intérêts s'agrègent. Enfin voilà, ça fait, ça peut marcher avec quel autres intérêts, quoi. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un livre de Noam Chomsky qui date de quelques années, qui s'appelle quelque chose comme États-Unis, Israël, Palestine, le triangle fatidique ou un truc comme ça. Il explique, enfin, de mon point de vue, il explique assez bien comment ça marche par intérêt convergent, quoi. C'est pas le point.
D'autre part, en France, si on s'en prend à l'État d'Israël, on se fait traiter d'antisémite. Oui. Or, on peut très bien être antisioniste et pas antisémite.
Et ouais, mais ça, je pense que les responsabilités sont extrêmement partagées. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui pensent que, mais bien sûr, tous les Juifs doivent être derrière Israël, mais bien sûr, tous les Juifs pensent de la même façon, que, voilà, c'est un peu compliqué aussi, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est ce genre de réflexion, ah oui, vous critiquez Israël, vous êtes antisémite, évidemment, c'est de la manipulation. Mais il faut aussi que les gens acceptent d'entendre que les Juifs ont des voix plurielles et que... Les Juifs ne sont pas tous pareils, et que. Voilà, donc ça, c'est. Enfin, je veux dire. Ça, c'est compliqué, hein. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Les gens. Si vous voulez, moi, j'habite pas loin de Toulouse, et je suis assez souvent en contact avec le cinéma Utopia, à Toulouse et Tournefeuille. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Enfin, il y a quelques années, Utopia Tournefeuille, ils avaient programmé le film Écrivain des frontières, qui est un film qui a été fait sur une visite d'un groupe qui s'appelle Écrivains sans frontières, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, qui sont allés en Palestine, et un film a été fait sur cette visite. Et donc, ils ont programmé ce film en présence de Leïla Chahine. Et au moment où elle était déléguée de Palestine en France. Et le CRIF de Toulouse a écrit à Utopia en l'injuriant, alors que précédemment ils étaient très liés, enfin, ils faisaient des choses ensemble en tout cas, en l'injuriant que c'était un scandale d'inviter cette dame et que voilà. Et donc le cinéma Utopia, il se trouve que bon, ils avaient les coordonnées, tout ça, et donc c'est-à-dire que voilà, le CRIF a voulu acheter à l'avance, parce que c'est des trucs avec des débats où on achète les places à l'avance au cinéma. Et donc, ils ont voulu acheter à l'avance la moitié des places pour occuper la salle. Et donc, d'autres juifs sur Toulouse qui sont opposés au CRIF ont dit « Ah ben, si c'est ça, nous, on achète l'autre moitié et on va leur faire entrer. » Et donc, le cinéma Utopia a dit « Nous, ça nous intéresse pas trop, ça, nous, on fait du cinéma, on fait pas des pugilats. » Et donc, on a un peu discuté, et puis ils ont dit, on va programmer cette projection avec Leïla Chahine un petit peu plus tard, mais avec quelqu'un de la direction de l'UJFP. Et puis, on va programmer d'autres films, comme le film d'Elial Sivan, Route 181, et d'autres, Forget Baghdad. Enfin, il y avait 4 ou 5 films comme ça sur le sujet, avec des débats chaque fois, donc avec l'UJFP. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire passer un film avec Leïla Chahine, ils ont fait passer 5 films avec chaque fois des débats, dont le même film avec Leïla Chahine, la direction du JFP, etc. Et dans les milieux militants sur Toulouse, on entendait Utopia, ils se sont fait intimider par le CRIF et ils ont annulé la projection. Et même dans le monde diplomatique, qui est paru pas très longtemps après, est paru un article sur le terrorisme intellectuel, justement sur ce sujet-là, et où ils annonçaient que le cinéma Utopia avait été intimidé par le CRIF et qu'ils avaient annulé une projection. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, quand le CRIF vous emmerde, eh ben vous pouvez faire pas seulement une projection, mais 5, et vous faites des débats, et vous trouvez bien d'autres juifs pour parler en face du CRIF, au lieu de dire ça, ils disent, ah oui, le CRIF est tout puissant et il annule tout, alors que c'est faux. Alors, je sais pas, enfin... Si vous voulez, alors sans doute le gars qui a écrit l'article, d'abord s'est pas renseigné, puis ensuite il voulait faire mousser son sujet. Jusque-là, le Monde diplomatique était pour moi un journal très respectable. Voilà, les militants essayent de faire monter la sauce pareillement, c'est stupide. Je veux dire qu'il me semble bien plus intéressant à moi de dire, ben, vous voyez, si le CRIF vous emmerde, si on tient dans sa tête, il n'y a aucun problème, quoi. Et donc, si vous voulez, tout... À mon avis, les responsabilités de ce genre de truc, ah oui, on se fait traiter d'antisémites, les responsabilités sont partagées, quoi. C'est-à-dire que, il faut accepter qu'il y a des juifs qui pensent autrement, il faut accepter de le dire, il faut le reconnaître, il faut le faire savoir, il faut... Oui, c'est toujours... on est tous co-responsables de ce qui se dit dans notre propre société, quoi. Hein. Donc, on est tous en train de le fabriquer, quoi. C'est bien facile de dire... je comprends que peut-être quand on n'est pas juif, il y a des questions un peu compliquées sur l'antisémitisme, tout ça. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est très important d'avoir des éclairages historiques, quoi. Il faut bien savoir que le sionisme, c'est pas qu'une affaire juive, et que si le sionisme, ça marche, c'est parce qu'il y a bien d'autres intérêts que ça remplit, quoi. Difficile. Moi, je pense que quand même, je connais des gens qui critiquent complètement la politique israélienne et qui sont bien tranquilles qu'ils sont pas antisémites, quoi. Mais il faut être un peu tranquille qu'on n'est pas antisémite et il y a des gens qui sont pas sûrs. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que les juifs, c'est un peu spécial. Enfin, je sais pas, il y a une sorte Mais c'est sûr que c'est un chantage auquel il ne faut pas se laisser prendre, mais voilà, il faut aussi se renseigner sur les opinions diverses des Juifs et sur les opinions diverses des Juifs israéliens aussi.
Je parlais tout à l'heure des accords d'Oslo. Donc, je parlais tout à l'heure des accords d'Oslo, et tu m'en as présenté une vision que nous n'avions pas du tout approchée parce qu'on était dans l'enthousiasme de se dire qu'il y a quelque chose qui était possible à l'époque, et puis on a vu qu'effectivement ça a capoté. Tout ce travail en souterrain qui avait été fait l'incognito absolument parfait jusqu'au moment où effectivement ils sont arrivés dans la sphère publique et grand médiatique, et auquel cas on avait quand même quelque espérance que ça marche. Et donc tout à l'heure tu m'en as dit deux mots qui m'ont un peu interloqué.
Ben, oui, ce que je disais, c'est que pendant pendant tous ces trucs de négociation, bon, d'abord des négociations, il y en a tout le temps, mais pendant tous ces trucs de négociation, de signature d'accord, après les accords, Oslo comme les autres, il y a toujours eu de la colonisation en Cisjordanie. Ça a toujours continué. Et les accords d'Oslo, évidemment que quand ils ont été signés, on était tous avec de l'espoir, c'est vrai, mais après, quand des gens... Vous les lisent, enfin les lisent pour vous un peu en profondeur et vous expliquent ce que c'est, en fait, c'est une espèce d'organisation, je disais tout à l'heure, c'est une organisation nord-sud, c'est-à-dire que c'était fait pour que les Palestiniens soient une main-d'œuvre pas chère pour les Israéliens, quoi. Enfin, c'est des organisations économiques de ce type-là, quoi. Et c'est sûr que les Palestiniens, de toute façon, ne sont pas en position de négocier, jamais. C'est-à-dire qu'ils sont respectés par personne. Les Israéliens peuvent les empêcher de se déplacer comme ils veulent. Donc, ils sont jamais complètement sûrs qu'ils vont pouvoir sortir de chez eux pour aller se rendre aux négociations. Et donc, ils sont dans des positions toujours de faiblesse, quoi. Et donc, quand ils arrivent à négocier quelque chose, c'est toujours... Enfin, on voit bien en ce moment cette espèce de mascarade de pourparlers. Et alors, peut-être les Israéliens vont faire un compromis pour continuer le moratoire sur le gel de la colonisation. C'est pas sûr. Est-ce qu'ils vont... Enfin, c'est pas un compromis qu'ils doivent faire. C'est inacceptable ce qu'ils font. Et donc, c'est tout le temps comme ça. Comment voulez-vous qu'ils négocient un truc qui tient un peu la route, quoi?
D'autant qu'il n'y a aucune sanction s'ils ne respectent pas. Même les clauses qui sont léonines, hein, et s'ils ne respectent pas leur part de marché,
c'est pour
l'ONU, les Américains font que leur droit de veto et puis il ne se passe pratiquement rien. Ou même quand une résolution est prise, elle n'est jamais appliquée sur le terrain.
Ben non, parce que tout est toujours histoire de rapport de force.
Et c'est pour ça que les autorités palestiniennes sont complètement discréditées en Palestine aussi, parce que, en fait, nous, les accords d'Oslo, la base qu'on a eue comme écho, c'est les autorités palestiniennes se mettent au service, font la police pour les Israéliens en Cisjordanie.
Sont les collaborateurs.
Voilà. Et dans une ville comme Naplouse, il y a eu 78% de votes pour le Hamas aux élections municipales. Mais effectivement, ce n'était pas 78% des gens qui voulaient voter pour le Hamas, mais c'était 78% des gens qui votaient contre les autorités palestiniennes, contre le Fatah.
Mais c'est sûr que l'autorité palestinienne, c'est une position impossible. Mais en plus, ils sont comme tous les gens qui ont une partie de pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'on voit Ramallah, enfin, c'est Gabelgine. Mais bon, par ailleurs, ils ont une position impossible, quoi. C'est vraiment... je crois que... c'est ça. Tant qu'on n'est pas capable, les puissances occidentales, tant qu'on n'est pas capable de dire « Non mais attendez, la colonisation, ça suffit, vous arrêtez maintenant. »
Il n'y aura jamais de solution.
Mais Enfin, moi, je crois que de toute façon, chez les humains, des solutions, il n'y en a pas. Mais, enfin, moi, je raisonne pas comme ça, si vous voulez. Je me demande pas est-ce qu'il y a une solution ou est-ce qu'il y a un espoir ou est-ce que parce que il n'y en a pas. Moi, je me dis juste, parmi tous les gens qui pensent là-dedans, c'est qui tient la route, quoi. Et donc, de toute façon, je pense par exemple à Zohrot qui travaille pour faire entendre que le droit au retour des Palestiniens, c'est une exigence minimum. Je pense que de toute façon, on voit la carte qui est là, que bon, un État palestinien viable à l'intérieur de frontières. Voilà, c'est en fait, c'est, ça va être un super État avec un apartheid et
tout un tas de. On ne sait pas comment. C'est que des îles, moi, tout ça.
Mais c'est que
non,
des
îles. Non, c'est parce qu'ils ont enlevé toutes les parties. Ouais, ils ont mis la mer à la place de toutes les parties.
Il fallait lire
jusqu'au bout. Oui.
Mais d'abord, c'est effectivement que
Mais quand on voit, Liliane parlait de ça tout à l'heure, on voit beaucoup, enfin moi au mois d'avril dernier, là, j'étais un peu en Israël et en Palestine, et en particulier dans la vallée du Jourdain, et dans les vallées qui y arrivent, quoi. Et voilà, mais dans plein d'autres sites, on voit ça, voilà, vous avez des fermes, des villages palestiniens, et puis sur les crêtes, des colonies israéliennes partout, Et les terres les plus fertiles de la vallée sont engrillagées, c'est israélien. Vous dites, voilà, et tout le monde sait ça, quoi.
Et qu'est-ce qu'on peut faire?
Comment ils peuvent vivre, survivre dans ces conditions? Il vaut mieux que le ciel leur tombe sur la tête, quand même.
Ouais, c'est pas complètement sûr, parce qu'au début 2009, c'est bien ce qui est arrivé à Gaza, quoi. Mais... Ouais.
Ils vivent au quotidien, ils vivent parce que, en fait, ils sont beaucoup subventionnés. Les fonctionnaires sont payés par l'Europe, par des voilà. Et donc, un fonctionnaire va faire vivre toute une famille et voilà. Mais c'est vrai que parce que ils sont pas Hamas, parce que s'ils votent Hamas en Cisjordanie, ils vont leur couper tout. Parce qu'ils seront, ils vont couper toutes ces aides-là, quoi. C'est ce qui s'est passé à Gaza. Ils se retrouvent dans la misère la plus totale, quoi. Ils ne peuvent plus se soigner, ils ont vraiment du mal à se nourrir. Et là, ils vivent au quotidien. Les enfants vont à l'école, les épiceries sont ouvertes. C'est vrai que quand on va...
Les malades vont aux hôpitaux israéliens, s'ils peuvent. En plusieurs heures, s'ils sont à quelques kilomètres.
Non, ils ne peuvent pas sortir, les Palestiniens.
Mais je sais bien. Hein. Ben, il y a quand même quelques cas où ils les laissent entrer pour aller à l'hôpital.
Ils ne peuvent pas être soignés en Cisjordanie.
Ils peuvent soigner à Gaza pour aller en Cisjordanie. Ah. Il faut traverser Israël. Enfin, une partie.
Comment ça se fait que cette bande de Gaza, là, et puis Israël, et puis chez nous, en Palestine, de l'autre côté. Comment ça se fait que c'est organisé comme ça? C'est une même d'une façon... Il
devait y avoir un couloir de...
C'est l'histoire. Ça, c'était le partage au début.
Gaza des cartes. Pas que Gaza était égyptienne.
Voilà, oui, c'était avoir...
Le partage était découpé en grossièrement de cette façon-là. Après, les colonies israéliennes ont grignoté de plus en plus... les couloirs de circulation, mais enfin, déjà, dès le départ, c'était découpé.
C'est les décisions de 48, ça.
Oui.
Oui, c'est 48.
Oui. Mais bon, je pense que c'est une région du monde où ils vivent des trucs atroces, les Palestiniens, mais il y a plein de régions dans le monde où on ne sait pas tout ce qui se passe, mais c'est aussi affreux. Le rôle de l'Europe et de la France, c'est pas mieux. Hein. Mm-hmm. Bon. Je veux dire, quand on se pose la question de comment ça se fait qu'ils arrivent à vivre, dans le monde, il y a des gens drogues.
À la merci des roquettes tous les jours. Et tout,
sauf que la merci des roquettes, les Israéliens, oui, donc c'est eux qui...
Si vous voulez, les gens qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, de tout ça, ben, ils sont là, quoi. Mm-hmm. Donc, dire, c'est pas si facile, enfin, c'est pas si facile de décider qu'on part à vivre ailleurs, que... Voilà, donc, quand vous êtes là, il y a de la vie, quoi.
D'autant que les pays arabes autour n'ont pas fait preuve d'un zèle excessif pour les accueillir. Ah non,
pas du tout. Et puis, ils sont dans des camps, la vie dans les camps d'un réfugiés, c'est pas drôle. Hein.
Les Palestiniens n'ont pas tellement envie de partir. Quand question des gens, ils veulent rester, ils résistent. Hein, c'est un peuple qui résiste. C'est la majorité des gens... ne veulent pas partir.
Non, non, mais c'est sûr qu'ils ne veulent pas partir non plus, mais ouais. Des fois on se dit, mais enfin, comment ça se fait qu'ils arrivent, tout ça, ouais. N'empêche que de toute façon... Ouais.
Et pour aller un petit peu plus dans le concret, est-ce que ça débloquerait une situation que de faire que l'économie ordinaire d'Israël, pas l'économie subventionnée, puisqu'ils reçoivent quand même pas mal de fonds de l'extérieur pour pouvoir payer l'armée, payer l'armement, et ainsi de suite. Mais que l'économie ordinaire, par le boycott, influence leur façon de faire et de penser par rapport aux Palestiniens. Est-ce que, donc concrètement, quel est ce pouvoir et, quelle est la valeur de ce pouvoir économique alors que c'est une société, la société israélienne, qui ne vit que d'un budget ramené des États-Unis, essentiellement d'un budget de la diaspora?
Alors, le pouvoir économique du mouvement BDS, je ne sais pas si c'est vraiment sur le plan économique que ça va être très très fort. Je pense que c'est beaucoup, enfin peut-être, mais c'est beaucoup, comment dire, sur le plan de la propagande en quelque sorte. Parce que sur le plan économique, je pense que l'Europe, par exemple, aurait pu faire beaucoup. C'est-à-dire que aurait eu des moyens de pression très forts. C'est-à-dire que les accords économiques entre Europe et Israël stipulent que les accords doivent être suspendus si Israël commet des violations des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les raisons pour les suspendre. Et alors aujourd'hui, je ne sais pas, mais encore il y a quelques années, le poids économique des ventes d'Israël en France, des produits agricoles en particulier, était suffisamment important pour que si l'Europe suspendait ses accords, on aurait eu des moyens de pression pour faire des choses. Même que, oui, effectivement, les États-Unis ont un très très fort sur le plan de l'armement. C'est incroyable ce qu'ils donnent, mais l'Europe aurait pu quand même avoir un poids très important. Aujourd'hui, je sais pas trop, d'abord parce que je suis pas du tout férue sur ces questions, et je sais que les échanges économiques entre Israël et certains pays arabes augmentent tellement que... c'est possible que l'Europe ne soit plus si pesante.
Position première.
Après, voilà, BDS, moi je pense que c'est plus contrer la machine de propagande, par exemple, Eyal Sivan, le réalisateur israélien, il parle beaucoup de la machine de propagande israélienne à travers le cinéma, par exemple. Donc, ou bien à travers tous les échanges culturels, c'est-à-dire que il y a oui, ce qu'on peut sûrement appeler une propagande par, de toute façon, des échanges culturels, il y en a, mais il y a une espèce de normalisation par la culture, quoi. Et donc, c'est plus, il me semble que le mouvement BDS, c'est plus pour faire sauter ce voilà, qu'on soit conscient, quand on va voir des événements culturels, si Israël y prend part, qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de faire et des choses comme ça, quoi. Sur le plan... oui, je pense que c'est une question d'image. C'est beaucoup une bataille sur l'image, quoi. Voilà, il faut faire cesser cette image de l'État d'Israël qui est tellement en insécurité, qui est qu'il faut protéger, qu'il faut. Je crois que c'est plus sur la bataille de l'image que ça porte, quoi. Après, pas seulement non plus, parce que par exemple, maintenant je ne sais plus si c'est en Angleterre ou en Irlande, enfin il y a des forts mouvements parfois, je sais pas, chez des dockers, dans des grands syndicats comme ça, de refuser de vider un bateau, de charger un bateau. Donc ça, c'est, oui, ça sûrement, ça a un poids, quoi. Je pense que c'est quand même quelque chose qui peut inquiéter les chefs d'entreprise israéliens, quoi. De la même façon que il y a eu, c'était en Espagne et en Angleterre, des moments où des généraux israéliens ont été, je sais plus comment ça s'appelle, là, les législations spéciales où on peut mettre en procès, enfin attaquer en justice quelqu'un d'un pays étranger. Voilà, les compétences universelles. Donc les généraux israéliens, après, ils font des entreprises ou des trucs comme ça. Ils ont besoin de voyager beaucoup dans le monde, quoi. Et si il commence à y avoir des impossibilités comme ça à cause d'affaires judiciaires, ça les dérange, par exemple. Donc il y a quand même moyen de les déranger beaucoup, quoi. Mais c'est un travail incessant.
Est-ce qu'il y a des évolutions, la jeunesse israélienne et une nouvelle génération? Quel regard elles ont? Est-ce que ça change?
Vous savez, il y a une telle propagande dès l'école, dès même le jardin d'enfants, une propagande militaire. Toute la fierté, toute l'insertion dans la société, c'est le militaire, quoi. C'est passer par les trucs militaires, faire son service militaire, les unités d'élite, tout ça. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui, enfin, si vous voulez, c'est des jeunes gens comme tout le monde, quoi. Enfin, sauf que la société est particulièrement tendue, beaucoup plus tendue que la nôtre, mais c'est des gens qui veulent s'insérer dans leur propre société et se faire bien voir et tout ça, quoi. Donc il y a des jeunes, pas beaucoup, mais il y a des jeunes qui refusent de faire leur service militaire pour des raisons politiques, qui sont soutenus par cette association dont je parlais, New Profile. Mais bon, bien sûr qu'ils ne sont pas nombreux. Bon, c'est encore des gens qui ont besoin d'être soutenus, d'entendre qu'à l'extérieur, il y a des gens qui savent ce qui se passe, qui les soutiennent et tout ça, quoi. Mais c'est difficile, hein, de... Enfin, faut s'imaginer un peu soi-même naissant dans une société comme ça, allant à l'école dans une société comme ça, faut avoir dans la tête un truc...
Avec une menace trop forte, puisque l'État est tellement petit que...
Oui, alors ils ont une menace aux portes, ils sont eux-mêmes tellement menaçants que...
Oui, c'est vrai, mais je veux dire que quand un missile tombe en Israël, ça fait sursauter tout le monde, même les
gens. Ça fait sursauter, voilà. Oui. Ça fait sursauter, oui. Mais quand un missile tombe sur Gaza, ça ne fait pas que sursauter. Quoi. C'est-à-dire que...
Non, mais d'un côté, c'est des outils artisanaux, de l'autre, mais c'est des armes extrêmement perfectionnées.
La question, c'est quel type de solution on essaye de choisir. Donc, eux, ils prennent que des solutions militaires. Donc, peut-être qu'ils sont en insécurité, mais depuis le début, c'est que ça qu'ils veulent. C'est quand même une politique constante de gardons un ennemi extérieur.
Les premiers ministres, c'est des anciens généraux, très souvent, en dehors de Netanyahou, mais c'est très récemment, c'était que des généraux. Enfin,
si vous voulez, ce texte que je vous ai lu, là, de cette dame qui habite Sderot, alors évidemment, à Sderot, ils pensent pas tous comme ça, mais je veux dire, il faut s'appuyer sur des gens comme ça, qui disent, nous avons la possibilité de créer avec les gens de Gaza des liens et d'arrêter de se regarder en ennemi et en diable. C'est des choix politiques, il n'y a rien qui est facile. Mais enfin, leur solution, c'est que la guerre, quoi. Donc,
Mais plus la guerre dure, et moins la réconciliation approche.
Oui, en plus, oui. Mais de toute façon, plus la guerre dure, et plus il y a des morts, et plus il y a des
milliers. Oui, alors il y a des vendettes. Enfin,
mais je veux dire que nous non plus, on ne cherche pas à appuyer les solutions pacifiques chez eux. Hein.
Je crois quand même qu'en France, il y a 40 ans, Israël avait meilleure réputation que maintenant.
Auprès des citoyens français.
Bon, il y en a toujours qui sont inconditionnels.
Non, c'est sûr que je pense que...
C'est-à-dire que les gens ne le savaient pas très bien ce qui s'était passé. Puis on avait quand même eu quelques expériences malheureuses, les Français et d'autres, Suez, tout ça, là. Ils étaient à nos côtés, ils ont profité de notre présence, les Israéliens. Là.
Et inversement.
Inversement, oui.
Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est au niveau des gouvernements européens, si vous voulez, il n'y a pas non plus personne qui dise « Attendez, peut-être il y a d'autres solutions que la guerre, quoi. Peut-être il y a autre chose que des négociations fantoches avec des Palestiniens que de toute façon on ne respecte pas, et en se demandant si peut-être on pourrait avoir un petit compromis sur la colonisation des Jordaniens. Nous non plus, on... »
Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas encore l'analyse... je dirais historique, mais qu'on n'a pas l'analyse que un jour ou l'autre, ça va nous retomber à nous personnellement sur le coin de la cafetière, parce que on sait très bien quand même que la militarisation d'Israël au point où elle en est, même si c'est pas compté comme un État possédant l'arme atomique, on sait que on se doute qu'ils l'ont. Bon, donc
enfin, on se doute pas, on le sait.
Oui, non, mais il est pas quand même affiché comme un État à l'heure actuelle, comme un État étant un État, on le sait. Bon, alors que l'Inde, on le sait, mais c'est officiellement écrit, que le Pakistan, c'est officiellement écrit, mais Israël, il y a encore des doutes dans la, et c'est la propagande entretenue sur où ils doivent bien avoir effectivement l'armement nucléaire. Bon, donc ça veut bien dire quelque part que si on le fabrique, c'est pour s'en servir. Alors, quand est-ce qu'ils s'en serviront? Nous, on en a bien. Les États-Unis en ont bien. La Corée du Nord en a bien. Donc, le jour où il y en a un qui appuie sur le bouton, parce que, après tout, des huluberlus à la tête d'un État, c'est facile. Ça arrive. On en a tous les jours pas preuve, des fois. Donc, ça veut bien dire aussi que quelle est la sécurité, quelle est l'insécurité qui ne va pas arriver jusqu'à nous, effectivement, à cause de notre non-ingérence dans cette partie-là. Pourquoi penser qu'on serait sauf de ce conflit alors qu'effectivement il est bien là pour entraîner d'autres pays dans des conflits, dans des pays du Moyen-Orient, dans certains conflits?
Moi, je ne crois pas que nos dirigeants ils soient vraiment soucieux de paix.
Il faudra penser.
D'autant plus qu'il faut vendre des armes.
Tout à fait. Quand on ne peut pas les vendre aux autres, on les rachète.
C'est comme les vaccins. Acheter
haute de rafale.
C'est comme les vaccins.
On vient d'acheter haute de rafale à Dassault, le pauvre. Il était aux abois.
Il rachète le Parisien. Ça va.
Mais ouais, non, moi je crois pas que les gens ils soient vraiment soucieux de paix, quoi. C'est pas ça. Les gens sont pris dans une idéologie. Voilà, aujourd'hui le danger c'est l'islam, le choc des civilisations, et voilà, et Israël de ce point de vue-là est de notre côté, quoi. Enfin, il me semble que c'est comme ça que c'est vu, quoi.
Pas satisfaisant intellectuellement. Enfin, pour moi au moins.
Mais... Je ne sais pas si vous avez vu le film de Charles Anderlin, là, Le rêve brisé.
Ah oui.
Moi, quand je vois ces gens, Donc, c'est un film sur les négociations, quoi. J'ai l'impression qu'ils se font une espèce de pièce de théâtre, mais après, la vie des gens pour de vrai, là, ils n'en ont rien à foutre. Ben, je sais pas, moi, ça me paraît complètement...
C'est un peu ce qui se joue à l'Assemblée nationale en ce moment ici, sur notre dos.
Oui, aussi, oui.
Sur un sujet peut-être un petit peu moins cuisant, mais enfin, quand même.
Du moins, actuellement, on s'interroge.
on a les dirigeants qu'on a.
Oui, peut-être, c'est le problème de la pensée, effectivement. C'est bien dit.
Ben, vous savez, globalement, enfin, si on n'a pas vraiment travaillé sur le sujet, tout ça, ben, on est un peu englué dans ce qui se dit couramment dans la société et on est paumé. Ben, les gens qui nous dirigent sont pareils. Hein. Ils n'ont pas plus d'idées. Hein.
Oui, mais enfin, s'appuyer sur des conseillers éclairés, ça peut se faire aussi.
Moi, je crois qu'ils sont dans la même mythologie que tout le monde, quoi.
Oui, surtout si ça rapporte pas les problèmes.
Bon, que tous les gouvernements français ont été pratiquement pro-israéliens.
Ah, historiquement, j'ai quand même un souvenir de la part d'un militaire qui n'a pas voulu vendre les armes. C'est quand même, c'était en 64, je ne me souviens plus, quand il y a eu l'embargo sur l'armement de Dassault. Sur le territoire israélien, parce qu'ils avaient attaqué, effectivement, ils avaient fait une guerre d'attaque et non pas une guerre de défense. Après, dès qu'ils ont fait la guerre de défense pour le Kippour ou autre, ça, on était présents sur le terrain pour vendre les pièces détachées.
Mais quand vous lisez certains historiens israéliens, il y en a qui disent que toutes les guerres qu'a fait Israël, il les a toujours provoquées. Mmh. Alors bon... Et puis, je crois que leurs installations nucléaires, c'est aussi un peu grâce à la France.
Oui, semblerait. Ils ont un peu fourni des renseignements.
Mais oui, je pense que c'est... C'est une décolonisation européenne, quoi.
Oui, enfin, ça a perdu. Il n'y a pas que là, je sais bien. Mais...
Enfin, c'est-à-dire, eux, ils sont vraiment grossiers. Quoi. Après, les autres colonisations, on les maquille, eux sont vraiment grossiers.
Ils font comme nous avions fait, nous, quand il a fallu prendre possession de certains pays. L'Algérie, ça ne s'est pas passé...
Voilà, alors le truc un peu Israël, c'est que quand même, mettons en 48, 49, bon, si les Israéliens avaient perdu, les Juifs israéliens, ils n'avaient quand même pas d'endroit où revenir. Si on compare par exemple avec la France et l'Algérie, ou des choses comme ça, effectivement, eux, ils n'avaient plus d'endroit où revenir. Donc ça. Mais toutes les histoires sont toujours singulières, quoi. C'est un peu, c'est-à-dire, c'est une colonisation de la part de l'Europe, mais c'est une colonisation particulière, puisque c'est pas des gens qui avaient un État qui se sont étendus ailleurs. Ce sont des gens qui sont allés créer un État et ils ne pouvaient plus revenir d'où ils venaient, quoi. Donc c'est... Mais après, voilà, le type de solution... Là, il y avait des sionistes qui n'avaient pas l'intention de créer un État. Il y avait, depuis le début, des gens, même après la création de l'État, qui disaient il faut négocier, il faut parler avec eux, il faut les respecter. Il faut... Enfin, une des questions pour moi, c'est toujours les puissances extérieures, qui est-ce qu'ils aident ?
Dans tous les pays, il y a des marchands d'armes. S'il n'y a plus de guerre, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils vont à la faillite. Ben oui.
Ah ben c'est sûr que les histoires de boycott auprès des salariés qui travaillent dans les usines d'armement, c'est compliqué. Mmh.
Mmh.
Pour toutes les fermetures d'usines. Et on les ferme. Certaines.
Bien sûr. Mais ceux qui travaillent aux armements, ils veulent pas voir le manque de morale dans leur métier à eux, mais dans ceux qui les servent. Hein. Le gars sur son tour, c'est ce qu'on lui dit de faire. Et s'il ne le faisait pas, il en trouverait d'autres. C'est pas...
Et par rapport aux solutions qui sont, entre parenthèses, aux solutions, qui sont préconisées, la création soit de deux États, soit d'un État judéo-arabe, ça ne pensait pas à ça.
Moi, je pense que c'est leur affaire. Hein. Voilà, moi, je veux faire connaître l'association The Rock qui dit nous devons travailler au droit au retour. Moi, j'essaie de faire connaître les gens qui disent en Israël, nous devons avoir des droits égaux. Parce que c'est aussi, je pense que la situation des Palestiniens citoyens d'Israël, c'est aussi très important dans cette histoire, quoi. C'est-à-dire que si ils arrivent à faire changer la société israélienne de l'intérieur, ça fait aussi complètement changer la façon de voir les Palestiniens. Parce que la question, c'est pas tellement... bien sûr que sur le plan pratique, la question se pose, quoi, mais la question, c'est l'égalité des droits, quoi. Donc, après, qu'il y ait deux États ou un État, de toute façon, s'il y a un État palestinien, il faut que cet État soit respecté, il faut que cet État soit souverain à l'intérieur de ses frontières, qu'il soit pas comme Gaza, qu'il n'est même pas en capacité de tenir ses frontières, de tenir les échanges et tout ça, quoi, enfin... Donc, deux États, si l'autorité palestinienne est toujours en même état de soumission par rapport à Israël et aux Occidentaux, ça ne veut rien dire, quoi. Sur le terrain, deux États, on ne voit pas très bien comment c'est possible géographiquement et... Un État, on ne voit pas très bien comment c'est possible psychologiquement. Quoi. Mais bon.
Et le droit au retour, c'est un point de rupture pour les Israéliens. Absolument pas.
Ben, les dirigeants, ils ne veulent pas, mais je pense que à l'extérieur, nous non plus, on n'est pas capable de penser à soutenir cette situation-là. Quoi. Enfin, c'est... Moi, ça me fait penser un peu aux gens qui disent les Juifs, il leur fallait bien un État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est tous OK pour dire qu'en Europe, c'était impossible de les garder, tous ces Juifs. Quoi. Et donc là, c'est un peu le même genre de truc. On n'est pas capable de soutenir l'existence de différences culturelles sur un même territoire. Quoi. Donc, moi, je pense que c'est très, très important le soutien extérieur. La position de tiers qu'ont l'Europe, les États-Unis, tout ça, vis-à-vis d'une situation comme ça. Je pense que seuls, ils ne vont pas s'en sortir, quoi. Je veux dire, la tension, la haine est tellement forte que il me semble que, forcément, il faut des tiers qui interviennent, quoi. Mais ces tiers, ils n'ont pas de pensée non plus sur cette question du respect mutuel. Qui est complètement nécessaire et complètement inexistant. Mais je pense que nous non plus, on n'est pas capable de soutenir ça, ce respect.
Puis on voit partout maintenant des gens qui font sécession, ou essaient, etc. Sans penser que peut-être les unités économiques, elles se porteraient mieux si c'était des pays plus grands. Enfin, la Belgique, elle veut éclater, là. Bon, c'est pas le même problème, mais... Et vivre ensemble, c'est beaucoup mis en cause un peu partout. Ben, la Catalogne, pour un peu, elle deviendrait indépendante aussi. Bon, je sais pas. Même, il y avait C'est un écrivain espagnol qui avait dit à un général franquiste que l'Espagne sans le Pays Basque et la Catalogne est comme vous, mon général, borgne et manchot. C'était le général Yale, je crois, il y avait, qui était justement borgne et manchot. Et la Catalogne, elle est de plus en plus en dissidence. Évidemment, c'est une province riche, la Catalogne.
C'est la Lombardie et le Mezzogiorno.
Est-ce qu'on doit penser que c'est une bonne chose d'en arriver à ça, avec des pays qui se morcellent, etc. Moi, je ne crois pas, maintenant.
Mais bien sûr. Historiquement, il nous semble qu'à une époque, il y a une vingtaine d'années, la politique d'Israël de faire venir des juifs, cette politique qui a augmenté, de faire venir des juifs, donc des autres, des États tels que la Russie, qui devenait la CEI, tels que même l'Éthiopie. Cette politique-là, en fait, elle a été mise en place, donc la recrudescence de ces retours à la terre promise, cette recrudescence, parce qu'en fait, c'était aussi une façon de lutter contre la natalité palestinienne des Palestiniens israéliens.
C'est-à-dire qu'ils ont toujours une question démographique, quoi.
Voilà.
Mais ça, c'est congénital, quoi. C'est-à-dire que depuis le début... depuis le début, il faut qu'ils fassent venir des juifs et les juifs n'ont pas tellement envie d'y aller. Donc, ils voulaient faire venir des juifs d'Europe. La population juive européenne a été décimée. Ensuite, ils se sont aperçus qu'il y avait des juifs dans les pays arabes. Donc, ils ont fait venir les juifs des pays arabes. Et ils ont tout le temps besoin de faire venir du monde, C'est-à-dire, s'ils soutiennent des colonies partout, il faut mettre des gens dedans, quoi. Et c'est toujours... Ils se vivent comme une enclave qui est dans un océan d'hostilité. Et donc, ils sont incapables de... Je veux dire, c'est un pays du Moyen-Orient, il faut que ce soit un pays du Moyen-Orient, quoi. En relation avec ses voisins. Et donc, ils se vivent comme une espèce de forteresse, la close, et ils ont tout le temps besoin de faire venir du monde, ouais, parce que sinon ils se sentent noyés, quoi. En fait, ils veulent pas en quelque sorte, ils veulent s'installer sur cette terre, mais ils veulent pas être là, quoi. Ils veulent pas être dans leur propre environnement. Donc, de toute façon, c'est le problème de cette ségrégation, de vouloir faire un État juif, forcément, la démographie des autres populations est en permanence inquiétante, quoi. Mais bon, ils se font en même temps, parce que tous ces juifs russes sont des gens qui ne s'intègrent pas du tout, ça fait ça fait une altérité en plus au sein de cette société déjà extrêmement fracturée. Cette société en elle-même, juste la société israélienne, déjà c'est une poudrière, quoi. Juste si on les laisse tout seuls. Moi, je pense si tout autour, plus personne ne disait rien, ne faisait rien, ils exploseraient à l'intérieur d'Israël. Donc cette guerre permanente qu'ils ont à l'extérieur, c'est complètement nécessaire, sinon ils tiennent pas, quoi. Donc... Oui, ils ont besoin toujours de faire venir du monde qui puisse dire juif, même si peut-être pas toujours forcément, mais bon. Et voilà, ça fait toujours plus de populations qui peuvent pas s'intégrer. C'est terrible, hein, cette histoire. En fait.
Il y a beaucoup de racisme entre eux, quoi, entre les Russes, ceux qui sont
des Ashkénazes,
les
Éthiopiens,
depuis le début, oui.
Donc, les derniers contingents russes, là, ils ont surtout amené des voix à la droite, d'ailleurs, en Israël, semble-t-il.
Oui. De toute façon, il y en a toujours bien assez des gens qui votent à l'extrême droite.
Oui, je veux dire. Il n'y a pas qu'en Israël qu'il y en a trop.
Et est-ce qu'on retrouve ces courants-là de pensée? Est-ce qu'on retrouve des échos quand même favorables dans les partis politiques constitués?
De eux, là?
Oui.
Non, c'est surtout... Enfin, il y a le parti Balad, un parti judéo-arabe communisant, enfin communiste, mais qui est assez petit, quoi. Mais c'est surtout des mouvements de la société civile, quoi. C'est plus associatif que...
La presse internationale se fait quand même l'écho de ces protestations d'Israéliens au cœur d'Israël. Quand on lit Courrier International, il y a souvent des articles, par exemple, d'opposition, où ça a l'air quand même vivace, quoi, et ça pourrait pas démarrer quelque chose.
Je pense que, je pense que dans les journaux israéliens, les discussions sont plus vives que ce qu'on peut avoir comme discussion en France.
Oui.
Mais il y a aussi des mouvements de juifs qui s'opposent à la politique israélienne aux États-Unis et qui sont assez forts, quand même. Mais bon. Pas suffisamment.
Mais ça débouche pas, ça.
Ben, ça débouche sur des trucs, mais...
Qui sont pas décisifs. À un moment donné, il n'y a pas un dirigeant occidental qui va prendre en compte ce son de cloche. Parce que c'est quand même... Enfin, moi, je ne peux pas m'imaginer que dans l'entourage d'un chef d'État... Il n'y ait pas des conseillers qui soient quand même, puisqu'ils marchent beaucoup avec conseillers maintenant, et pas simplement leur chambre d'élus, mais qui effectivement ne puissent pas leur glisser dans l'oreille. Donc il faudrait peut-être travailler autrement. Ça fait 40 ans que ça dure, 50 ans, enfin même 60 que ça dure. Peut-être qu'il faudrait prendre le problème un petit peu autrement. On a des gens qui ont déjà réfléchi à la chose. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de tenter un raisonnement international sur ce problème-là qui soit autre chose que ce raisonnement qu'on entend depuis 60 ans, quoi.
Moi, je pense qu'il faut avoir une envergure que c'est trop rare. Je sais pas si on peut dire qu'elle n'existe plus et qu'elle a existé, j'en sais rien, mais c'est très très rare, je pense. Moi, je sais que... Donc des groupes comme le JFP, il y en a dans à peu près tous les pays d'Europe, et donc il y a tout un, enfin il y a un, comment on dit, un regroupement de ça qui s'appelle
une confédération,
les,
quoi.
Oui, une confédération qui s'appelle les Juifs Européens pour une paix juste et qui font du lobbying à Bruxelles, quoi. Et donc ils ont décidé, enfin ça fait 2-3 ans qu'on a décidé, il faut absolument monter des lobbies à Bruxelles, investir ça, quoi. Et je pense que sûrement il y en a des sons de cloche différents parmi les conseillers, mais je pense qu'il faut avoir une envergure politique là très forte, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas laisser les choses aller à leur pente naturelle, quoi.
Bien sûr, il faut lutter contre un courant séculaire. C'est un courant séculaire quand même, ça.
Est-ce que les intérêts économiques poussent justement à ça,
non? Les intérêts économiques poussent à continuer toujours dans le même sens.
Voilà. Oui, entre les armes et...
Et puis je pense que les intérêts idéologiques de cette histoire de choc des civilisations et trucs comme ça, je pense que c'est très très fort aussi. Tout quand même ce qu'on entend, la façon de traiter l'islam dans les médias, c'est vraiment très très pesant, quoi. Je crois que c'est une... Ouais, c'est une espèce de nécessité de toujours se situer, qui c'est les ennemis, de la part de tout le monde, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? De toute façon, je pense qu'il y a Palestine 12 qui a suffisamment pignon sur rue et peut faire passer des informations, au moins ici, sur les histoires de boycott, sur la popularisation de ces idées-là. Donc, on peut aussi avoir l'oreille attentive.
Oui.
Il est parti.
Grégory est parti.
Oui, ah oui, pardon.
Mais enfin, il a dit ça avant de partir. Il l'a répété.
Oui.
Il faudrait.
Il passera l'enregistrement.
Oui.
Il envisage justement de relancer.
De relancer le jeu. Bon, mais s'il n'y a plus de questions particulières avec Claire Niaille.
Merci.
Nous la remercions.
Merci
beaucoup.
Merci à vous.
Et donc, prochain jeudi, c'est donc le 28 octobre avec l'eau à l'arsenic.